Alors d'abord quelques nouvelles. Donc nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Max Bernard. Voilà. Décédé des suites d'une longue maladie. Il ne se rendait déjà plus à la messe depuis bien longtemps. Mais rassurez-vous, donc il a été bien sûr accompagné par les prières de l'Église et il a été donc muni des derniers sacrements. Il devrait être normalement enterré mardi prochain. Voilà. Donc on communiquera ultérieurement l'horaire de l'enterrement. Alors évidemment, il n'y aura que la famille pour la cérémonie des obsèques. C'est après le confinement qu'on organisera pour toute la paroisse, toute la communauté, et plus spécialement la chapelle de la Roche-sur-Yon, une messe de requiem. J'en profite pour recommander à vos prières Monsieur Michel Chéniaud, actuellement hospitalisé. Voilà, son état est tout de même préoccupant, donc priez bien pour lui. Donc merci de vos prières et bien sûr, nous assurons la famille Bernard, notamment Madame Bernard, ses enfants, de notre prière. Et puis la famille Chéniaud également de notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chères sœurs, je vous ferai part, pour commencer, en résumé de ce que j'ai dit hier aux fidèles, car il y a déjà eu un sermon qui a été enregistré et mis en ligne. Voilà. Et j'avais hier insisté sur le pouvoir dans l'Église. Ce pouvoir que l'on compare à celui d'un pasteur par rapport à son troupeau. Alors nous sommes à une période de la liturgie qui nous fait revivre ce temps qui sépare la résurrection de l'ascension. Et vous n'êtes pas sans savoir que juste avant de monter au ciel, donc entre sa résurrection et son ascension, notre Seigneur a terminé d'enseigner les apôtres et puis surtout, il a terminé de fonder son Église. Et c'est dans ce contexte qu'il va confirmer Saint Pierre dans son pouvoir suprême en lui disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Et puis en même temps, l'Église nous fait entendre cet évangile où notre Seigneur lui-même dit « Je suis le bon pasteur ». La question pourrait alors se poser, mais qui est le pasteur dans l'Église? Notre Seigneur dit qu'il est le bon pasteur, et en même temps il dit à Saint Pierre « Paie mes brebis, paie mes agneaux », autrement dit, sois aussi le pasteur. Évidemment, notre Seigneur est le pasteur. Tout en confiant son pouvoir à ses apôtres, plus spécialement à Saint Pierre, notre Seigneur continue d'être le pasteur. C'est d'ailleurs le sens de la préface que l'Église nous fait lire à la fête des apôtres. Hier, nous avons célébré Saint Jean l'Évangéliste. Nous récitons également cette préface. Et dans cette préface, il est dit que notre Seigneur, tout en confiant son troupeau à ses apôtres et à leurs successeurs, lui-même continue, hein, d'entourer, son troupeau, hein, continue de veiller, hein, continue de le gouverner, tout simplement. Et c'est pour montrer que finalement, le rôle des pasteurs dans l'Église, et plus spécialement le rôle du pape, est un rôle vicaire, c'est-à-dire il représente, il gouverne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas en le remplaçant purement et simplement, comme si notre Seigneur cessait d'être le pasteur et nos pasteurs à nous pourraient alors gouverner d'une manière autonome. Certainement pas. Ils doivent gouverner dans une totale dépendance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dont l'Église souffre aujourd'hui, c'est ce décalage qu'il y a entre les pasteurs qui gouvernent aujourd'hui l'Église et le pasteur éternel. Il y a malheureusement un décalage. Leur pastoral, pourrions-nous dire, ne correspond plus, hein, à ce que notre Seigneur a institué. D'où la crise de l'Église. Et il faut prier pour que les pasteurs d'aujourd'hui reviennent à leur devoir, puissent à nouveau gouverner l'Église, gouverner le troupeau qui leur a été confié dans une parfaite fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je disais que par voie de conséquence, notre lien avec la hiérarchie d'aujourd'hui, bien évidemment, existe toujours, il doit exister, car nous confessons, nous le chanterons tout à l'heure dans le credo, nous confessons l'Église catholique, et en particulier romaine, par conséquent, nous confessons sa hiérarchie d'institutions divines, nous confessons le pouvoir du pape, nous confessons même le pouvoir des évêques, c'est évident. Mais notre lien avec le pape d'aujourd'hui, notre lien avec les évêques d'aujourd'hui, ne peut pas être exactement le même que si tout allait bien dans l'Église. Il existe, mais il est comme devenu de moins en moins visible, de moins en moins palpable. En tout cas, il n'est plus serein. Ça n'est pas un lien très paisible, comme on aurait pu le connaître par le passé. Mais il n'empêche que ce lien demeure. Mais si notre Seigneur permet que nous soyons privés d'une certaine manière, dans une certaine mesure, d'un lien visible, c'est certainement pour que nous resserrions dans tous les cas notre lien avec lui-même. N'oublions pas que si les pasteurs d'aujourd'hui nous abandonnent, si nous pouvons nous reconnaître comme des orphelins, nous ne sommes certainement pas abandonnés du pasteur suprême dans l'Église. Certainement pas. Et au contraire, le lien doit encore plus se renforcer. Et c'est ce lien que nous recommande également cette très belle image du pasteur, cette image que notre Seigneur se donne de lui-même. Alors nous l'avons chanté, vous l'avez chanté, et très bien chanté, dans l'Alléluia. La mélodie grégorienne est extraordinaire, elle met vraiment en évidence cette union ô combien intime que notre Seigneur veut établir entre lui et chacun d'entre nous. Je connais mes brebis, cognosco oves meas, et mes brebis, et cognoscunt, et mes brebis me connaissent. Évidemment, il faut entendre ce mot cognosco en latin, avec toute la richesse du mot grec, avec tout ce que ce mot grec peut dire dans cette connaissance, à propos au sujet de cette connaissance qu'il y a, qu'il doit y avoir entre notre Seigneur et nous. Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance encore moins superficielle. Nous autres pouvons dire « je connais telle ou telle personne », mais avouez que la connaissance que nous pouvons avoir de telle ou telle personne, même la connaissance que nous pouvons avoir de nos parents, reste une connaissance, après tout, assez superficielle. Pour notre Seigneur, il s'agit d'une connaissance profondément intime. Notre Seigneur nous connaît avec ses yeux, qui sont les siens, avec son intelligence qui est la sienne, avec sa science qui est la sienne, et avec son amour, avec son cœur qui est le sien. Mais vous imaginez quelle connaissance notre Seigneur peut avoir de chacun d'entre nous. Il nous connaît dans notre fort interne, pas simplement dans notre fort externe, mais dans notre fort interne. Et il faut que notre connaissance en retour, notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, puisse autant que possible s'approcher de la connaissance que notre Seigneur a de lui-même. Bien évidemment, nous n'arriverons jamais à ce niveau-là, mais il faut que nous nous en approchions, que notre connaissance que nous devons avoir de notre Seigneur soit une connaissance la plus intime possible. Ne nous contentons pas de connaître notre Seigneur uniquement avec notre intelligence, uniquement avec nos connaissances ou la science que nous pouvons acquérir dans le catéchisme ou par la lecture. Il faut que ce soit une connaissance intime, une connaissance connaturelle, une connaissance par l'amour. Cette connaissance qu'on appelle notamment la sagesse. Pas simplement connaître intellectuellement, mais goûter, aimer, savourer ce que nous connaissons de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où d'ailleurs la pratique que nous a toujours recommandé l'Église et les saints et les pères de l'Église et les auteurs spirituels, la pratique de l'oraison, la pratique de la méditation, ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse prière silencieuse. Voilà. On se tait et on pense à notre Seigneur en l'aimant. On le regarde comme lui nous regarde. et on le regarde d'un regard qui soit le plus surnaturel possible. Et où ces regards vont-ils le plus se croiser ? Où notre regard pourra-t-il le plus se croiser avec celui de notre Seigneur ? C'est dans l'Eucharistie. Et c'est le premier Alléluia de la messe d'aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs reconnurent, et c'est le même verbe, cogno verunt, cette fois-ci conjugué au passé, ils reconnurent notre Seigneur à la fraction du pain, ils reconnurent notre Seigneur dans l'Eucharistie. Et c'est évident, en recevant notre Seigneur en personne, substantiellement présent, eh bien nous avons l'occasion unique de mieux connaître, de plus découvrir notre Seigneur lui-même, ce qu'il est, ce qu'il veut être pour chacun d'entre nous. Et j'invite en cela ceux qui sont privés de la Sainte Communion Eucharistique, sacramentelle, justement de pratiquer la communion spirituelle pour pouvoir autant que possible échanger avec notre Seigneur ce regard. Ce regard qui nous amène à mieux le connaître et donc à mieux l'aimer. Et puis, j'ajouterai, pour ceux qui sont en général, habituellement, en ces circonstances, privés des sacrements, c'est encore une invitation, sans aucun doute, justement, à approfondir ce lien très, très, très spirituel, très intime, entre nous et notre Seigneur. Ce lien qui, à la base, est le lien de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce lien qui peut exister en dehors des sacrements. Pas sans les sacrements, mais quand on en est privé indépendamment de notre volonté, ce lien demeure et ce lien peut même se renforcer. C'est tout le sens de ce qu'explique l'abbé Desmarie lorsqu'il s'adressait en son temps aux chrétiens, aux catholiques persécutés sous la Révolution française et donc privés des sacrements. Il leur disait « Comment peut-on se sanctifier ? Quel est le bien spirituel à tirer de la privation même des sacrements ? C'est que notre lien avec notre Seigneur se purifie, se resserre encore plus. » Je terminerai ces quelques mots, évidemment, en évoquant la question des vocations qui est tellement liée aux sacrements, surtout les vocations sacerdotales. De quoi souffrons-nous aujourd'hui ? De quoi souffrez-vous ? Eh bien, chers frères, vous qui allez m'entendre, peut-être à travers cet enregistrement, de quoi souffrez-vous ? De la privation des sacrements. Et pourquoi êtes-vous privé des sacrements ? Parce que vous ne pouvez pas accéder aux prêtres. Ou parce que l'accès aux prêtres est devenu difficile. Donc, vous comprenez bien que les sacrements sont intimement liés au sacerdoce. Et vous pouvez alors, en cette occasion, apprécier d'autant plus le sacerdoce. Vous rendre compte, vous rendre à l'évidence, et vous en faites maintenant l'expérience, que le sacerdoce est vital, tout comme les sacrements. Et qu'on ne peut pas imaginer la vie chrétienne sans prêtres. Et qu'il faut par conséquent se mobiliser pour qu'il y ait des prêtres. Pensez que cette année, il n'y a eu que 8 entrées dans le séminaire de Flavigny. Alors évidemment, ça n'est pas l'unique séminaire de la fraternité, il y a eu d'autres séminaires qui ont accueilli d'autres séminaristes, mais avouez tout de même que pour un pays comme la France, c'est évidemment beaucoup trop peu. Ça n'est pas admissible, un si petit chiffre. Il n'est pas possible qu'il y ait en France, dans nos milieux, que 8 vocations. Et puis, plus largement, les vocations religieuses, il n'y a que 2 religieuses qui, à Ruffec, ont pris l'habit. 2, et qui ne sont même pas françaises, australiennes et japonaises. On a été les chercher très loin, comme s'il n'y en aurait plus en France. Ça n'est pas non plus possible. C'est qu'il y a certainement, de notre part, une résistance à la grâce. Et il y a peut-être aussi, eh bien, ce manque, cette absence de lien intime avec notre Seigneur. On est rattaché à notre Seigneur par les sacrements, d'une manière extérieure, d'une manière visible, mais pas suffisamment de manière intérieure. Pourrait-on dire, au sujet de chacun d'entre nous, oui, notre Seigneur me connaît sans aucun doute, mais est-ce que moi, en retour, je le connais ? Est-ce qu'il y a vraiment une relation intime? Est-ce qu'il y a vraiment une connaissance réciproque entre notre Seigneur et mon âme? Un amour réciproque entre notre Seigneur et mon âme? Du côté de notre Seigneur, il n'y a pas à en douter, mais de ma part. Est-ce que je corresponds à cet amour? Est-ce que je corresponds à cette connaissance? Évidemment, si étant jeune, on n'a aucun souci pour la vie intérieure, on n'a aucun souci pour la vie spirituelle, pour cette intimité qui doit s'établir entre mon âme et notre Seigneur, évidemment, on ne se dispose pas à entendre l'appel de notre Seigneur, car c'est un appel d'amour, c'est un appel qui s'entend dans le secret du cœur, mais faut-il être dans son cœur pour se retrouver avec notre Seigneur? Alors prions pour qu'il y ait plus de vocation, prions dans l'immédiat pour que notre vie intérieure, surtout chez les jeunes, se développe, s'intensifie, s'approfondisse. C'est dans ces conditions qu'ils se disposeront évidemment à entendre l'éventuel appel de notre Seigneur. Pour finir, nous nous tournons vers Notre-Dame. Demandons à Notre-Dame de rentrer encore plus en profondeur dans cette intimité avec notre Seigneur, cette intimité qu'elle a connue, qu'elle connaît à un degré qu'on ne peut pas imaginer, étant donné sa plénitude de grâce, étant donné sa proximité par sa maternité divine, et comme elle est notre mère, eh bien demandons-lui qu'elle nous apprenne, surtout au rythme des Ave Maria qui se récitent dans le chapelet, qu'elle nous apprenne cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions un jour le contempler face à face dans l'éternité bienheureuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.